À la fin des années 80, Jacques Roubaud répond à une enquête menée sur la situation de la poésie en France, ceci. Le constat de l'absence de la poésie, et souvent fait, n'est plus à faire. On pourrait même dire qu'il occupe plus de place que la poésie elle-même. Pourtant, en 2012, alors que l'appropriation des nouvelles technologies par des auteurs et éditeurs français suscite de nombreux débats, Paul Fournel entrevoit un second souffle pour le genre grâce au numérique et à Internet. Et le livre électronique, dit-il, peut donner une chance à la nouvelle, à la poésie. Si tous les matins on peut recevoir par abonnement un bon poème sur son iPhone, qui dit qu'on ne prendra pas l'habitude de lire dans le métro ? Contre la marginalité de la poésie contemporaine dans le secteur du livre, le numérique et Internet pourraient donc, selon ce propos, réinvestir un genre qui semble avoir perdu sa place dans la culture vivante. Nous avons donc souhaité placer notre propos à la croisée d'une forme brève en poésie, le haïku, et de pratiques d'auteurs français qui se revendiquent comme des poètes numériques. Alors, redonner quelques définitions, le haïku d'abord est un poème court d'origine japonaise de 17 syllabes, souvent représenté en traduction sous la forme de trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Et dans sa conception traditionnelle, il comporte un mot indiquant une saison et un mot césure. L'émotion naît alors de la contraction et de l'implicite du poème, de la brièveté et de la simplicité des moyens mobilisés. Dès la fin du XIXe siècle, la forme connaît un très fort succès en Europe et exerce un attrait sans précédent sur les poètes occidentaux, comme contrepoint surtout à la poésie classique. Donc si l'appropriation de la forme et sa traduction ont souvent été controversées, il n'en demeure pas moins que sa simplicité apparente lui a vraiment acquis une renommée internationale. Ce que nous nommons poésie numérique ne rencontre pas la même popularité et une présentation semble nécessaire. Donc en France, un petit groupe d'auteurs revendique l'existence de cette poésie à travers leur création et leur texte théorique. Ils défendent une conception de la poésie numérique où la dimension technique est incontournable. Et leurs poèmes sont composés par et pour l'outil technologique et manipulent souvent un tissu sémiotique composé de textes, d'images et de sons. Leurs œuvres utilisent également un dispositif de lecture spécifique qui peut faire appel à différents flux d'informations comme l'Internet, des capteurs, des générateurs et des générateurs de données et l'interaction du lecteur. Nous traiterons donc d'œuvres créées par et pour le numérique et dont l'impression et l'enregistrement en vidéo ne rendent compte que d'une infime partie de la création. C'est pourquoi nous vous invitons à aller consulter ces œuvres par vous-même sur le répertoire du NT2, entre autres. Mais là, je présenterai que des supports visuels, donc qui sont une invitation à la découverte. Donc pour le corpus, j'ai sélectionné 8 œuvres, donc Haïku de Philippe de Jonquière, Instant Memory de Patricia Ritz-Scott et Pedro Vitorino, Un générateur de Haïku et Mes contre Haïku de Jean-Pierre Balpe, Génératif de Luc Dallaire-Mélina, La séparation de la compagnie Alice et du collectif Itras, Haïku Poncture de Philippe Boutz et Rébus d'Alexandra Zemmer. Donc dans notre communication, nous nous demanderons comment les poètes numériques se sont appropriés la forme du haïku pour définir leur singularité. En observant tout d'abord de quelle manière la forme du haïku est appréhendée par les auteurs. Dans un second temps, nous remarquerons que le haïku se prête particulièrement bien à l'exploration du médium informatique et d'Internet à travers différentes esthétiques. Et enfin, la forme du haïku semble une manière pour les poètes de proclamer leur singularité, mais représente aussi un moyen de se situer dans le champ littéraire. Donc dans une première partie, l'analyse des rapports donc, entre les œuvres de poésie numérique sélectionnées et la forme du haïku. Donc au sein du domaine, deux manières de s'inspirer du haïku se dessinent, et ces modalités d'appréhension sont, il me semble, vraiment ancré dans les réflexions engagées sur la forme du haïku à partir des années 70 en France par des poètes comme Jacques Roubaud, Philippe Jacotet, Yves Bonnefoy ou des théoriciens comme Roland Barthes. Notre propos ici n'est pas de rendre compte de la finesse de toutes ces analyses, mais je les évoque rapidement parce que sont des discours qui ont vraiment influencé les auteurs de notre corpus. Donc selon deux modes que j'aimerais détailler. Donc d'un côté, l'attrait pour une forme qui représenterait un peu un idéal poétique, et de l'autre, une attirance plus subversive pour la forme. Donc le choix d'une forme qui représenterait un idéal poétique est très fort dans le discours des auteurs que j'ai pu interroger pour ce travail. Donc tout d'abord, pour Luc Dallaire-Mélina, par exemple, le haïku est une sorte d'idéal de la forme poétique, la forme poétique parfaite. Pour Alexandra Zeber, le haïku ouvre, plus encore que d'autres formes poétiques, des interstices de sens dans lesquels le lecteur est invité à s'engouffrer comme une invitation à la méditation. Donc nous retrouvons dans ces discours une fascination pour la forme qui est assez proche de celle de Philippe Jacotet, par exemple, dans L'Orient limpide, et dans l'introduction aussi à un recueil qu'il a fait qui s'appelle Haïku. Donc là, je vous ai donné des citations. Hein. par exemple, Jacotet a souvent recours à l'hyperbole, donc il parle du haïku comme une forme qui est d'une incomparable richesse, d'une extrême délicatesse, d'un dépouillement exquis, etc. Donc cette conception du haïku est évidemment un écho sur, dans les œuvres des auteurs que nous avons étudiées. Et par exemple, dans l'adaptation transmédiatique de Philippe de Jonquière, où c'est vraiment exemplaire à mon avis à cet égard. Donc au gré d'une navigation sur le site de l'auteur, désordre.net, nous pouvons découvrir cette adaptation. Donc sur fond noir, chapeauté par une image de clair de lune, défile aléatoirement à un rythme régulier 11 haïkus. Un bruit sec accompagne chaque changement de poème et l'internaute, en cliquant sur l'image, peut faire apparaître un nouvel haïku. Cette adaptation est révélatrice d'un imaginaire du haïku chez certains auteurs de poésie numérique française, directement hérité des lectures de Barthes ou de Jacotet. Donc en effet, l'accès au haïku peut se faire en cliquant sur l'hyperlien là, que j'ai bien mis en évidence, qui est présent dans une remédiatisation d'un extrait de préparation du roman 1 et 2 de Roland Barthes que fait Philippe de Jonquière sur son site. De plus, 6 des 11 haïkus visibles dans l'œuvre de Philippe de Jonquière sont des transcriptions de Jacotet lui-même. Et dans cette adaptation, l'artiste fait le choix de conserver une mise en page finalement assez courante de la traduction des petits poèmes japonais en Occident. Hein. Donc je vous remets l'image. Là, on retrouve vraiment le tercet traditionnel et la présentation qu'utilise aussi Philippe Jacotet pour son recueil. Dans le choix des sons aussi qu'on a quand on va donc voir cette adaptation des haïkus sur le site de Philippe de Jonquière, on peut difficilement ne pas penser au texte d'introduction du recueil de Philippe Jacotet, hein, où après avoir cité donc un premier vers d'un poème des Illuminations d'Arthur Rimbaud, il développe vraiment une longue métaphore qui associe le bruit de l'éventail à l'illumination déclenchée par le haïku, tout en l'opposant à la lourdeur occidentale, hein, donc toujours l'idée que le haïku est un contrepoint à une poésie classique traditionnelle. Donc l'influence de Jacotet dans la réception du haïku se retrouve encore dans l'unique image qui préside à la lecture des poèmes, hein, parce que bon, si les textes changent, on a toujours cette image de clair de lune. Et effectivement, le motif de la lune est aussi récurrent dans l'œuvre de Jacotet quand il se réfère au haïku. C'est vraiment un objet de contemplation qui a l'intérêt ici d'être une image souvent mobilisée par la forme et qui devient une sorte d'allégorie de l'objet poétique, précieux et transitoire, à renouveler sans cesse. L'adaptation de Philippe de Jonquière rend donc bien compte de cette idée, dans la mesure où, alors que la plupart des pages HTML de son site désordre.net comportent des hyperliens qui permettent de naviguer toujours plus en avant dans son site, et qui a d'ailleurs favorisé l'analyse de désordre comme une mise en abîme de l'Internet, ici, là, pour cette œuvre, les pages HTML des haïkus ne donnent accès qu'à d'autres haïkus, et l'activation de la lune n'engendre finalement qu'un autre poème. Donc vraiment l'idée que là on a une forme d'aboutissement à travers le haïku et quelque chose qu'on pourrait peut-être mettre du côté de la poésie pure. Alors du coup une autre influence qui se fait sentir aussi du haïku donc sur la poésie numérique est plus subversive. Donc si l'œuvre de Philippe de Jonquière date des années 2000, la rencontre du haïku et de l'informatique est bien plus précoce. Et dans son titre « Poésie française contemporaine », Jacques Donguy observe qu'en 1968, Un générateur de haïku était présenté lors d'une exposition organisée à l'Institut d'art contemporain de Londres. Et Thiamble, lui, mentionne même, à la même période, hein, une tentative de fabriquer à l'ordinateur des haïkus japonais, donc dans les années 70, et qui, donc, un article qui est présent dans le Times du 18 juin. Donc en France, ces expériences vont être reprises par Jean-Pierre Balpe, qui est le premier à proposer en 1985, lors de l'exposition au centre Georges Pompidou, Les Immatériaux, un générateur de Ranga. Alors, je vous cite l'auteur, hein, donc, qui dit « Ces programmes subsistent, très améliorés, à attribuer à un de mes hétéronymes, Germaine Proust, donc sur un de ses blogs, et surtout de façon générative dans le générateur de haïku de son site, donc, que je vais vous montrer tout à l'heure. » Donc, dès lors, pour Jean-Pierre Balpe, le haïku n'est plus seulement un objet poétique, fascinant, bon, même s'il le reste, hein, bien sûr, mais c'est surtout une structure particulièrement apte, et je cite encore Jean-Pierre Balpe, à la créativité linguistique, et dont l'assemblage de fragments permettrait des potentialités infinies. Donc les deux œuvres de Jean-Pierre Balpe sont d'emblée placées sous le signe de la subversion. Donc par exemple, dans Mes contre haïku, alors malgré le titre de l'onglet, hein, qui est haïku, Jean-Pierre Balpe nomme son œuvre Mes contre haïku, car selon les propos de l'auteur, ces haïkus refusent le lyrisme et la mièvrerie, qui sont souvent le cas de ce genre. Les phrases d'introduction du générateur de haïku, donc pareil, sont assez caustiques, hein, étant donné qu'il dit « La poésie étant ce que de nos jours elle est, je refuse d'écrire des haïkus si vous n'en manifestez pas le désir en utilisant le bouton ci-dessous. Cependant, si vous en manifestez le désir, ma productivité poétique est infinie. » Le but de Jean-Pierre Balpe n'est donc pas d'utiliser l'informatique pour imiter la forme, mais plutôt au contraire, hein, de s'inspirer de la forme pour créer une littérature qui est, selon lui, adaptée à l'informatique. Le haïku est donc détourné par Jean-Pierre Balpe afin qu'il satisfasse son goût pour la manipulation du langage et ses infinies possibilités. Alors, on retrouve cette posture subversive chez Philippe Boutz, qui parle d'entourloupe, hein, concernant la transposition de la forme dans la culture occidentale. Son œuvre, Haïku Poncture, se présente comme une parodie du haïku occidentalisé. Et le titre, hein, met vraiment en exergue cette idée d'emprunt, hein, dévitalisé avec la poncture qui fait penser à ponction. Hein. Et donc, ça serait une ponction ici à la forme japonaise. Et donc, la présentation elle-même du poème, hein, n'a rien à voir avec la présentation traditionnelle du haïku en terre sèche qu'on peut retrouver dans la culture occidentale. Donc, malgré une approche divergente du haïku selon deux pôles assez classiques de l'imitation idéalisante ou de la modulation subversive, les poètes numériques semblent toutefois s'accorder pour faire du haïku une forme particulièrement propice à l'exploration du médium informatique et à l'Internet. Donc ce sera l'objet de notre deuxième partie. Donc en effet, trois aspects du poème, régulièrement évoqués par les auteurs, ont des échos manifestes dans la manière dont ils appréhendent le support. Donc si ces œuvres sont toujours l'occasion d'explorer la forme, elles sont aussi l'occasion de faire front commun contre aussi un web commercial que les auteurs dénoncent. Donc tout d'abord, dans le discours des auteurs, le haïku est une forme énigmatique. Donc je cite les auteurs, hein, énigmatique qui ouvre, amène le lecteur vers un en dehors du texte. Et si ce pouvoir d'évocation, cet ailleurs du texte, renvoie évidemment à l'imaginaire du lecteur, il semble pourtant que d'autres lieux mystérieux soient convoqués ici, qui sont le programme et Internet. Donc si les œuvres En effet, les œuvres sont principalement traversées par trois esthétiques, donc celle du fragment, celle de l'aléatoire et de l'éphémère. Donc l'idée de fragment est présente dans la forme même du haïku. Donc si on reprend encore une fois Jacques Autet, hein, qui dans L'Orient Lapide rappelle que le terme haïku généralement employée en France pour désigner le petit poème de 17 syllabes en question, s'applique, en fait, de préférence à une forme antérieure, dite aussi rancou. Sorte d'exercice poétique en chaîne, faisant alterner des groupes de 3 et 2 vers sur le schéma 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes et 7 syllabes, 7 syllabes, groupe dû à des poètes différents. Le haïku, proprement dit, est, lui, à l'origine, le premier poème, c'est-à-dire le premier groupe 5-7-5 détaché de l'ensemble ou de poèmes courts appelés tanka. Donc, ce que nous dit Jacques Côté ici, hein, c'est que finalement, le haïku serait lui-même un fragment, hein, ce qui reste d'une totalité perdue. Cette conception du haïku est très forte, évidemment, en génération de texte, hein, où le poème est composé, et je cite encore Jean-Pierre Balpin, à partir de fragments d'origines très diverses. Mais cette conception est aussi présente dans des œuvres de poésie animée comme celle d'Alexandra Zemmer, Rébus. Rébus apparaît sous la forme de 3 lignes, hein, de 5 carrés, constituées par des fragments de photos ou de textes. Et donc les contenus s'animent soit automatiquement, soit au survol de la souris. L'inspiration du haïku se manifeste donc à travers les références à une saison, alors bon, c'est l'hiver, hein, au voyage, parce qu'on est à Sitzspacen, pardon, et donc ça correspondrait à un voyage fait par Alexandra Zemmer quelques années plus tôt, et à travers aussi la brièveté des textes et la structure d'ensemble des œuvres, hein, dans la mesure où on a trois lignes de 5 carrés. Les espaces blancs entre les rectangles instaurent une scène fragmentaire, tout comme le rythme de l'animation qui interrompt la lecture des textes et des images. Il est impossible pour l'internaute de plus de recomposer la photographie dans son intégralité, finalement attirant systématiquement notre attention sur l'incomplétude et la technicité d'un dispositif qui échappe sans cesse. L'œuvre de Philippe de Jonquière inscrit cette esthétique du fragment au niveau du programme même, hein, dans la mesure où quand on accède au code source de haïku, que je vous ai montré précédemment, on se rend compte qu'on n'a pas accès, enfin on a accès qu'à 11 haïkus, alors que finalement le programme en contient 35. Donc il y a vraiment une disparition voulue de la part de l'auteur de 24 poèmes, hein, de la surface visible de l'écran, ce qui renvoie encore l'internaute aux potentialités de l'informatique et du web, dont on ne peut découvrir qu'une infime partie, donc à l'image, hein, d'ailleurs de la navigation dans le site de Jonquière, hein, qui est vraiment, enfin, vraiment l'image d'une hypertextualité totale. Hein. Donc dans ces travaux là dont je viens de parler, l'esthétique du fragment convoqué est fortement imbriquée à un deuxième aspect qui est la programmation aléatoire. Cette dernière renvoie aussi à une incomplétude ontologique des œuvres, tout en révélant l'inattendu, la surprise qui préside à la forme. Donc certains auteurs choisissent de rendre visible ce procédé. Donc avec Haïku Poncture, par exemple, donc de Philippe Boots, l'auteur choisit l'image d'un balancier. Et bon, alors, bon, c'est toujours un peu frustrant parce qu'effectivement, je vous fais pas manipuler. Enfin, il faudrait que vous manipuliez les œuvres. Hein, mais finalement, l'activation du balancier va précipiter la lecture du poème. C'est, on a bien là l'idée que c'est... la combinaison, l'aléatoire qui est mis en jeu dans le poème. Luc d'Alarmelina, donc dans l'œuvre générative, propose là cette fois l'idée d'une mise en scène graphique du poème avec les jeux du flux de la génération. Donc quand on va passer avec notre souris sur l'œuvre, on va avoir tous plein de textes générés, et c'est finalement quand on va écarter notre souris de la partie centrale de l'œuvre que le texte va se fixer. Pour l'œuvre de Patricia Rizzoc, Instant Memory, L'auteur suggère aussi une écriture du haïku qui se nourrit de l'aléatoire informatique et du flux web, dans la mesure où Instant Memory propose à l'internaute une succession de trois séquences, chacune composée d'un sujet, d'une image de fond, de deux mots cliquables et d'une proposition sonore qui se déclenche au bruit de la souris. Et chaque élément finalement va être sélectionné par l'internaute, mais à son insu. Et c'est à la fin de sa navigation qu'il va se rendre compte que de manière aléatoire, finalement, il a créé un haïku qui va s'afficher à la fin de la lecture. Donc le troisième élément, renvoyant à la fois à la forme du haïku et aux médias, est évidemment la labilité des œuvres et leur caractère éphémère. Donc le temps fugace du haïku est souvent rendu par le dispositif lui-même. L'œuvre de Philippe de Jonquière offre un rafraîchissement automatique, par exemple des pages HTML qui sont de toutes les 8 secondes environ. Rébus d'Alexandre Zemmer l'œuvre reste stable à peine une demi-seconde. Et dans le cas d'Alexandra Zemmer, justement, l'esthétique de l'éphémère est vraiment au cœur de sa réflexion artistique. Hein. Donc, par exemple, avec Rébus, le lecteur est finalement invité à éprouver une forme d'évanescence à travers l'animation et la manipulation du poème, mais c'est aussi à travers le logiciel même choisi par l'auteur que ça se joue. En effet, Rébus a été programmé avec Flash, qui est un logiciel en voie de disparition. Et Alexandra Zemmer reconnaît que c'est justement, et je cite l'auteur, hein, ce côté immaîtrisable du logiciel qui l'intéresse. Donc elle dit aussi, la vitesse de l'animation n'est pas préprogrammée, mais calée sur la vitesse d'exécution de la machine sur laquelle le poème est actualisé. Avec les années, l'animation accélère de plus en plus. Sans doute, les textes seront bientôt illisibles. Cette idée d'une disparition programmée me plaît beaucoup. D'ailleurs, Mandelbrot, hein, qui est le site d'Alexandra Zemmer et de Bruno Scocchimaro, a disparu quelques semaines de la surface visible d'Internet durant l'année 2015.
Est-ce qu'il est revenu, maintenant?
Oui, oui.
Ah, OK.
Tout à fait.
J'en étais encore à
Oui, oui. Ben, il est revenu à l'adresse d'Alexandra Zemmer. Ah, il n'est plus à l'adresse mandelbrot.net. Voilà. Donc cette problématique de l'éphémère touche toutes les œuvres de notre corpus sans être forcément revendiquée par leur auteur. Ainsi, Instant Memory aussi, hein, que je vous montrais l'interface principale tout à l'heure, n'est plus du tout accessible sur Internet, hein, complètement disparu. Et j'ai dû donc rencontrer Patricia Rizzoc pour avoir accès à quelques fragments de l'œuvre. C'est aussi quelque chose... Bon, tous les auteurs, hein, ont évidemment... accorde énormément d'importance à la pérennité ou pas de leurs œuvres, hein, mais c'est une réflexion qui traverse toujours le travail des artistes. Donc l'écriture fragmentaire, aléatoire et éphémère, pardon, des œuvres témoigne d'une convergence finalement assez féconde entre l'appropriation d'une forme, donc le haïku, est celle des médias par les auteurs. Cette appropriation se fait aussi contre une utilisation courante et quotidienne du web. Donc il y a vraiment une conception d'un web artistique en opposition à un web commercial, hein, qui se lie surtout au niveau de la navigation et des manipulations proposées par les artistes et les œuvres. Donc à l'inverse des productions numériques industrielles, et je cite Alexandra Zemmer ici, hein, où la manipulation est souvent mobilisée comme moyen de guidage, pardon, les œuvres de notre corpus déstabilisent l'internaute. Dans Rébus, par exemple, le lecteur ne peut établir un lien tangible entre l'animation du texte et des images et le mouvement qu'il fait avec sa souris. Dans Génératif Haïku de Luc Dallaire-Mélina, on a finalement un retournement par rapport à la relation attendue entre le geste et l'image. Finalement, c'est quand on écarte la souris de l'œuvre que celle-ci se fixe, hein, se stabilise et devient lisible. Dans La Séparation, une œuvre de la compagnie Alice et du collectif Itras, là, il y a vraiment des gestes complètement insolites qui sont... imposé au lecteur. Donc il doit couper, donc avec son doigt ou avec sa souris, hein, faire glisser les mots, les frotter, les faire sauter pour fabriquer du sens. Donc ces navigations singulières qui convoquent des gestes rappelant finalement un peu se mobiliser lors de la calligraphie du haïku offre une expérimentation du web original où une pause dans le flux et de la patience sont exigées pour mener à bien les lectures des poèmes. Donc à travers ces exemples, il devient aussi manifeste qu'il n'y a pas une poésie numérique, mais une diversité de démarches. Chacune de ces démarches a cependant fait le pari des médias récents que sont l'informatique et l'Internet. Donc objet de fascination ou de subversion, la forme du haïku témoigne des diverses problématiques quant à l'utilisation du web et de l'informatique par les auteurs de poésie numérique. Toutefois, le haïku paraît aussi particulièrement apte à rendre compte de la singularité de la poésie numérique et de ses auteurs d'une part, et de leur volonté enfin de s'inscrire dans le champ littéraire en France d'autre part. Donc c'est l'objet de notre dernière partie. Si nous avons montré précédemment que l'appropriation du haïku par les auteurs de poésie numérique atteste de la diversité de leurs pratiques, la forme révèle tout de même la particularité du domaine. Tout d'abord, le caractère hybride du haïku à la frontière des arts visuels et de la littérature figure le statut singulier des poètes numériques. En effet, le repli du verbal au profit du visuel apparaît tout d'abord dans le détournement des couleurs rituelles de la page. Donc dans 5 des œuvres là de notre corpus, la typographie est blanche ou de couleur claire sur fond noir, ce qui permet évidemment une meilleure visibilité des œuvres, mais offre aussi des couplages texte-images intéressants. Donc par exemple, Philippe de Jonquière là, a proposé 2 remédiatisations des haïkus. Donc une que vous voyez à gauche qui a été faite pour le site Le Terrier et l'autre pour son site hein, Désordre. Net. Et il me semble quand même que la mise en scène du désordre est beaucoup plus harmonieuse. Hein. On a vraiment l'image texte qui sont liées hein, dans les choix chromatiques et la composition de la page, contrairement à celle du Terrier où on a quand même une rupture entre les deux. Alors bon, là on voit pas forcément, mais il y a vraiment aussi un jeu sur les différentes tailles des polices qui permet de suppléer à nouveau à la perte de visibilité des mots dans le passage de l'alphabet oriental à l'alphabet occidental. On retrouve aussi ce procédé dans l'œuvre de Luc Dallaire-Mélina que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Mais surtout dans la séparation, hein, donc là, voilà, ici. où les lettres vraiment regagnent là un statut d'image évident. Donc l'ambivalence pardon, de ces œuvres entre texte et image rejaillit sur la situation des auteurs. Avons-nous affaire à des poètes, à des artistes, des écrivains? Finalement, on ne sait pas trop. Hein, et 2 des auteurs interrogés n'attribuent d'ailleurs pas à leur travail le statut d'œuvre. Ils ancrent tout de même leur pratique au sein d'une communauté hein, qui cherche vraiment à légitimer la poésie numérique, mais sans forcément faire œuvre. Philippe de Jonquière, quant à lui, n'appartient pas à cette communauté hein, de poètes numériques, mais se considère comme un artiste et non comme un poète. Et on a enfin la séparation là, avec la compagnie Alice, qui, elle, vient des arts du spectacle. Donc, pour montrer un peu l'hétérogénéité, finalement, du domaine. En plus, ces œuvres relèvent souvent d'un travail collectif. En effet, si le haïku en tant que fragment d'un rancou renvoie à une totalité perdue qui résiderait dans la prise en compte du programme, la forme révèle aussi la part du collectif dans ce genre d'écriture. Le programme informatique exige généralement une collaboration entre un auteur et un programmeur. Et par exemple, dans le code source de la page d'accueil de Désordre, hein, le site de Philippe de Jonquière, on a le nom de Julien Kirsch hein, qui se présente lui comme un codeur et un geek. Donc le projet aussi La Séparation, hein, naît de la collaboration entre la compagnie Alice, le collectif ITRAS et l'Université technologique de Compiègne. Et donc finalement, toutes les œuvres présentées ici réinvestissent une dimension sociale et ludique qui est à l'origine de la forme du haïku au Japon. Donc enfin, l'appropriation du haïku correspond évidemment à une volonté des acteurs de la poésie numérique à trouver une place dans le champ littéraire. À travers la médiation de la forme, l'inscription de la poésie numérique dans le champ littéraire semble se faire selon une double dimension. Donc d'un côté, la volonté de prolonger une tradition poétique française, et de l'autre, le désir d'innover en utilisant des procédés d'avant-garde. Si le haïku est considéré en poésie comme la forme brève par excellence, il semble bien que cette brièveté soit une marque aussi de, formelle de poéticité moderne, comme l'avance Jean-Marie Glaise. L'intérêt pour la forme se comprendrait alors, et je cite toujours Jean-Marie Glaise, comme conséquence de ce que Mallarmé avait désigné sous le nom de crise de verre à la fin du XIXe siècle. La forme offre donc une médiation ambivalente à la poésie numérique. Elle renvoie à la fois à une tradition poétique incontestable, mais aussi, hein, d'un autre côté, sa brièveté la place du côté de la subversion. Cette situation est manifeste dans le propos de Jean-Pierre Balbe, par exemple, qui situe la littérature informatique à la fois dans le prolongement de la littérature dite classique, mais aussi, et je cite l'auteur, en rupture dans ses modalités idéologiques de surface. Son travail sur les haïkus correspond bien à cette démarche, dans la mesure où il poursuit une réflexion sur la forme déjà initiée par François Le Lyonnais dans ses poèmes bouléens, par Jacques Roubaud avec son haïku lipien généralisé, ou par Jules Stéphan avec ses stances ou 52 contre-haïkus, mais s'oppose aussi à ses créations dans la mesure où ce n'est pas un texte qui compte pour lui, mais l'infinité de ses variations possibles. Dès lors, le choix du haïku est significatif de la difficulté de la poésie numérique à se positionner dans le champ littéraire. Reprenant des procédés qui ont déjà été explorés par la poésie expérimentale et d'avant-garde du XXe siècle, elle situe son originalité dans l'appropriation de médias dont la technicité, la labilité, le caractère ludique et commercial mettent en péril sa légitimité. Les contacts entre poésie traditionnelle et poésie numérique en France sont d'ailleurs peu nombreux, et l'expression littérature numérique, hein, de manière plus générale, recouvre davantage, il me semble, en France, des pratiques d'auteurs investissant Internet, mais avec des formats numériques déjà établis. Donc ces différentes stratégies auctorielles mériteraient évidemment des recherches supplémentaires. Donc pour conclure, plus qu'une voie de renouvellement du genre, la poésie numérique trouve dans l'appropriation du haïku une forme particulièrement apte à rendre compte de ses évolutions et de ses problématiques. En retenant du haïku sa dimension contraignante, programmée, idéale pour la génération, les auteurs témoignent à la fois d'une volonté de s'inscrire dans une tradition poétique, mais aussi d'une singularité de pratique qui situe le domaine davantage du côté de la poésie expérimentale. Si l'utilisation de l'outil informatique et d'Internet exige des compétences et une organisation du processus créatif qui ne sont pas complètement innovantes, elle donne cependant naissance à des œuvres hybrides qui brouillent toujours plus nos catégories de réception. Donc en s'appropriant le haïku, ce sont évidemment les frontières du champ littéraire que la poésie numérique cherche à déplacer, en s'y intégrant, mais il n'en demeure pas moins que l'autorité et la légitimité du domaine restent encore à établir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Thank you.